Compte complet présente des entretiens avec des personnalités liées au baseball. Dans cet épisode, Alain Husereau s'entretient avec une sommité des ligues de baseball des Noirs, Jack Anderson.
En compagnie de Jack Anderson, membre de la Society for American Baseball Research, est très impliqué auprès du comité des ligues des Noirs, ce qu'on appelait les Negro Leagues. Jack Anderson, première des choses, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à ces ligues-là, puis aux joueurs qui ont joué dans les ligues des Noirs?
Mais je pense que ça a commencé quand j'étais dans mon enfance ici à Montréal, avec toute l'histoire autour de Jackie Robinson. Jackie a joué seulement une saison ici à Montréal. Il était le premier Noir à jouer dans les ligues organisées depuis 60 ans, en 1946. Moi, je n'étais pas né dans ce temps-là, mais j'ai eu l'opportunité de visiter le stade de Laurier avant que l'équipe de baseball mineur, les Royaux, sont partis. Et j'ai toujours entendu parler de Jackie Robinson. Alors, j'avais puis avec mon nom Jack, c'est Jackie, j'ai toujours pensé à lui, puis j'étais inspiré par son dédication, son intérêt, son force morale qu'il a démontré, pas seulement quand il était jeune, mais quand il était un joueur étoile dans les ligues majeures.
Ouais. C'est bien beau être inspiré par Jackie Robinson. Je pense qu'on l'est tous, quiconque connu, connaît le baseball un petit peu. Votre implication directe dans les comités des Ligues des Noirs, ça, vous avez poussé ça un petit peu plus loin, là.
Absolument, oui.
Ça fait combien de temps que vous êtes
impliqué? Ça fait probablement un peu plus qu'une trentaine d'années. J'ai su qu'il y avait un groupe qui s'intéressait dans l'histoire des Ligues des Noirs. Et je les ai contactés, puis j'ai commencé à assister à leurs conférences qu'ils ont chaque année à une différente ville en Amérique du Nord. Et on a des présentations sur différents aspects de l'histoire. Il y a tellement de... les gens ne le savent pas, mais il y avait 7 différentes ligues noires au fil des années. Il y avait beaucoup de changements d'équipe, de ville, de transfert d'équipe, des faillites, des remplacements. Alors, il y a littéralement probablement 50 différentes équipes qui sont considérées des équipes de ligue majeure par MLB, l'organisation de baseball majeure aux États-Unis. Puis dans 7 ligues. Et ils sont maintenant acceptés comme un équivalent aux ligues majeures. Alors, il y a beaucoup de différents aspects qu'on peut regarder. Parce que les Noirs n'avaient pas le droit de jouer dans les ligues majeures entre 1888 et 1947. Ouais. Alors, toute cette histoire-là, les Noirs devraient jouer entre eux autres. Et il y avait un grand nombre d'étoiles de même équivalence de les étoiles des ligues majeures dans les ligues des Noirs.
Oui, bien écoutez, c'est assez évident. Là, on regarde ceux qui sont arrivés, là, ça n'a pas été long, qui ont été parmi les meilleurs. Moi, ce que je veux savoir, quand vous avez appris que les statistiques étaient pour être reconnues. C'était quoi votre première réaction?
Mais j'ai travaillé là-dessus. Je suis pas impliqué comme certains qui travaillent sur les statistiques parce que moi, j'ai fait des recherches moi-même parce que j'ai écrit plusieurs articles sur les Noirs avec des recherches que j'ai faites dans des journaux. L'Internet est merveilleux pour ça. Et je pense que ça les gens commencent à reconnaître que ces joueurs-là étaient au même niveau. Puis Ça a commencé, ça fait plusieurs années. Ça, c'est la ligue. Ça, c'est le. J'ai un livre ici, The Negro Leagues Were Major Leagues, mm-hmm. par Todd Peterson, que je connais. Et c'est une étude mesurée sur les statistiques des ligues majeures contre les ligues des Noirs et démontre que les ligues des Noirs étaient au même niveau que les ligues majeures. Il y a toujours des différences entre équipes, mm-hmm. Mais les meilleurs joueurs et les meilleures équipes dans les ligues noires étaient au même niveau que les ligues majeures. Et ça date de seulement quelques années, mais il y a des gens qui travaillent sur ça pour 50 ans.
Ah oui.
Alors, celui-ci, c'était publié, ça fait en 2020, et ça, c'était un grand pas mm-hmm. en avant pour la reconnaissance des, mm-hmm. des ligues des Noirs comme étant des ligues majeures. MLB, Major League Baseball, a décidé d'accepter les 7 ligues mm-hmm. Entre certaines années. Étaient des ligues majeures en équivalence. Mais maintenant, pour la première fois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions, ils ont accepté le transfert des statistiques
ouais.
avec les statistiques qu'on a depuis des décennies. Alors, Ty Cobb était le meilleur frappeur à moyenne mm-hmm. dans l'histoire de baseball avec un moyenne de 366. Ça existe depuis des années 20. Mais maintenant, il n'est plus. Il est le oh, deuxième. Ouais. Et le premier, c'est Josh Gibson. On voit là-bas.
Ouais.
Josh Gibson, le merveilleux frappeur, l'équivalent à ce temps-là, il y avait des étoiles blanches qui disaient que Josh Gibson n'était pas le Babe Ruth des Ligues Noires. Babe Ruth était le Josh Gibson de Major League Baseball.
Fait que d'après vous, autrement dit, cette décision-là était due, puis il n'y a pas de doute quant à la validité des statistiques qu'on a accumulées. Là.
Non, et il y a beaucoup de travail qui a été fait au fil des années récents où les statistiques étaient validées. Il y a des recherchistes dans les centaines qui font des recherches dans des petits journaux ici et là pour trouver des box scores, là, le compte-rendu. Et ils sont rendus probablement à 80% de tous les matchs des Ligues Noires ont été validés. Et les statistiques, surtout pour les années entre 1920 et 1950, sont très valides mm-hmm. et ils prouvent dans la ligue que dans le livre ici The Negro Leagues Were Major Leagues, ça donne toutes les statistiques incluant des choses que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand il y avait des matchs hors concours des ligues de noirs contre les blancs, la ligue des noirs ont actuellement gagné plus de matchs que les joueurs de ligue majeure. Et alors, c'était pas une ligue inférieure, c'était une ligue au même niveau. Les meilleures équipes, comme le Pittsburgh Crawfords et d'autres...
Les Homestead Grays, par
oui,
exemple.
Oui, les Homestead Grays, et puis plusieurs d'autres.
Les Monarchs de Kansas City, parce que c'était l'équipe de Jackie Robinson aussi.
Exactement, mais c'était l'équivalent des Yankees, en termes de performance, en termes de comment ils dominaient mm-hmm. les autres équipes. Mais même les plus pires équipes n'étaient pas mauvais dans la Ligue majeure ni dans la Ligue des Noirs. Mais ça donne une validité. Puis, comme j'ai dit, le livre qu'on discute ici, celui de Todd Peterson, ça donne toutes les statistiques par des experts dans le domaine. Mm-hmm. Et même les experts du Major League Baseball, comme le directeur en chef de recherche, John Thorne, lui, il accepte que les Ligues des Noirs, puis il dit que c'était vraiment le temps de l'accepter, pas juste que les Ligues de Noirs étaient des bonnes ligues au même niveau que les Ligues majeures, mais les statistiques étaient bonnes aussi. Alors, si on s'intègre les statistiques des Ligues des Noirs, il va y avoir des changements dans le moyenne de le batting average, là, le moyenne de coup sûr. Il va changer un total de 5 sur le premier 10.
Ah oui.
Et parce qu'il y avait tellement d'étoiles dans les Ligues des Noirs qui étaient parmi les meilleurs joueurs de tout le temps dans le baseball.
On dit que, bon, officiellement, 1920, c'est là. Est-ce que ça, on va commencer en 1920 pour les Ligues des Noirs dans les statistiques qui ont été accordées? Parce que ça jouait avant. Il y a eu des très bons joueurs qui ont joué avant.
Oui.
Mais il y en a plusieurs qui disent que 1920 est vraiment la première année là, des Ligues des Noirs organisées. Oui. Est-ce que c'est là qu'on va commencer?
Ben, je pense que en 1920, c'était le temps que les ligues officielles noires commencent. Et c'était, j'ai visité l'année passée Détroit. C'est là où la ligue était fondée en 1920.
Bon.
Mais il y a d'autres ligues, oui.
Parce qu'on va échapper des joueurs qui ont joué avant. Smokey oui. Joe Williams, par exemple, bon, c'est statistique. John Henry Lloyd, qui a joué un peu avant, je ne sais pas s'il a joué Pop un petit Lloyd, peu après 1920. Est-ce que ces joueurs-là vont être inclus? Peut-être
Le problème avec ça, c'est qu'on a les statistiques vérifiées pour les ligues de noirs entre 1920 jusqu'à la fin des ligues noires, fin des années 40. Et ils sont acceptés. Ils ont été accordés le statut de ligue majeure par MLB, par baseball officiel. Puis il y avait the Negro National League, il y avait Eastern Colored League de 1923 durant les années 20, the American Negro League commençant en 29, East-West League en 32, le Negro Southern League en 32. Negro National League 2, parce qu'il y avait une deuxième organisation, Negro National League, de 33 à 48, et le Negro American League de 1937 à 48.
Donc, ces sept ligues ont été acceptées par le baseball majeur.
Oui, et les statistiques des joueurs qui ont joué dans ces ligues-là sont éligibles pour devenir dans la liste de meilleurs frappeurs de tous les temps.
Oui, j'ai une question par rapport, ça c'est une critique qui a été entendue souvent, c'est que la validité des statistiques qui ont été accumulées, c'est pas tout à fait fiable parce qu'on n'a pas tous les matchs, mais ça a été réfuté, parce que les Noirs avaient leurs propres journaux qui suivaient le baseball des Noirs.
Oui, et c'est un point intéressant parce que les journaux noirs n'étaient pas respectés par les journaux blancs dans le temps. Mais les statistiques qui sont là-dedans sont aussi bien faites et aussi bien organisées que les statistiques qu'on voit dans le reste de baseball. Avec l'aide de Internet, avec l'aide le fait qu'on a scanné tous les résultats de match depuis les années 20, on a maintenant, comme j'ai dit, puis ça augmente chaque année, on est à plus que 80% de tous les matchs dans ces ligues-là ont été validés et les statistiques rentrées dans une base de données. Alors, peut-être ça aurait pu être valide en 1950 ou 60. Oui, on n'avait pas l'accès à tous ces journaux-là. C'était pas facile de faire les recherches. Mais la Société pour American Baseball Research a fait un devoir de continuer puis demande toujours des bénévoles pour aller chercher dans statistiques des gens. Moi, j'ai fouillé dans les anciens journaux. C'est pas facile, mais c'est important de le faire pour donner un rendre compte les faits de ces années-là. Et maintenant, ils sont satisfaits que les statistiques sont valides. Et c'est juste récemment, depuis 2020, qu'ils ont ces chiffres-là qui ont été validés.
Ouais.
Mais que... ça continue.
Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de deux joueurs en particulier et qui sont reconnus comme les meilleurs. Bon, vous avez parlé de Josh Gibson tantôt, oui. Puis... écoutez, sa légende grossit, on a l'impression, d'année en année. Josh Gibson, qui est un receveur, oui. Frappeur de puissance, on dit que c'est le seul droitier qui a sorti une balle du Yankee Stadium de New York. Josh Gibson, j'ai parlé à certains, bon, dans le cadre des congrès de la Sabre auxquels j'ai assisté, bon, il y a d'anciens joueurs des Ligues des Noirs, puis certains ont parlé de Josh Gibson, et c'est unanime. Bon, parlez-nous un peu de Gibson. Plusieurs prétendent quand il est décédé, il n'est pas décédé de problèmes de santé. Il est tout simplement décédé du fait de ne pas avoir été le premier à la place de Jackie Robinson. Il y avait des problèmes hors terrain, ça a été documenté. Des problèmes de consommation, de sorte que ça n'avait pas été ça, peut-être qu'il aurait été le premier. Ce qu'on dit de George Gibson, là, c'est, vous avez mentionné tantôt, c'est l'égal de Babe Ruth pour les Noirs.
Là. Oui. Et il était, sans équivoque, c'était le meilleur joueur de tous les temps dans les Ligues des Noirs. Puis il y avait beaucoup d'étoiles. Mais lui, il surpassait parce que c'était pas juste un frappeur de puissance. C'était un des meilleurs receveur défensif dans le temps. Il avait un bras incroyable. Et il était un frappeur en moyenne. Alors, son moyenne au bâton pour son carrière était 367. Et puis, il dépasse Ty Cobb qui avait 366. Et ça, c'est avec beaucoup de saisons. Une chose, pourquoi c'est même discutable pour certains gens, les moyennes, et c'est parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionnait avec les Ligues des Noirs. Alors, c'était pas sur une base financière établie, comme la plupart des équipes, comme les Yankees, les... Boston Red Sox, les autres équipes Cincinnati, ils jouaient dans les stades qui ne les appartenaient pas. Ils jouaient dans les stades des ligues majeures et les propriétaires aimaient recevoir de l'argent quand les joueurs des ligues des Noirs jouaient. Alors, ils prenaient un bon cut de pourcentage. Alors, il ne restait pas tellement pour les joueurs. Les joueurs, la plupart des joueurs qui jouaient dans la Ligue noire ont fini en étant en un état de pauvreté. Et on travaille depuis longtemps, et j'ai assisté un peu avec ça, mais il y a des gens qui recherchent, puis je vais vous demander un peu de l'aide avec le mot technique, les graves.
Les cimetières, là, les pierres tombales. Là.
Oui, exactement. Puis,
pour qu'on les reconnaisse, dans le fond. Là.
Parce que la plupart étaient en un état de pauvreté. Ils ne pouvaient même pas avoir...
Une
pierre tombale. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que Sabre a un comité. On travaille là-dessus. Puis, chaque année, on trouve 2, 3, 4. Puis, on met un pierre tombale là-dessus, décrivant l'histoire de ce joueur-là dans les Ligues des Noirs.
Oui.
Mais c'était toujours dans un état précaire, le financement des Ligues. Alors, il fallait que même des grands, les Homestead Grays, Pittsburgh Crawfords, jouaient la moitié de leur match sur la route. On appelle ça barnstorming.
Oui.
C'est d'aller à ville, puis jouer contre les autres équipes locales ou régionales.
Ça, c'est à l'intérieur de leur calendrier régulier. Là.
Exactement. C'était tout mélangé ensemble.
Ouais, pour faire un peu d'argent.
C'est, oui, parce que sinon, ils ne pouvaient pas...
Des matchs hors concours. Là.
Exactement. C'était des matchs hors concours, puis ils voyageaient. Littéralement, ils jouaient un match de ligue. Mm-hmm. Le lendemain, ils jouaient deux matchs dans deux différentes villes. Un dans l'après-midi, puis l'autre le soir. En voyageant dans un autobus.
Donc, les conditions étaient vraiment difficiles là, pour ces joueurs-là. Là.
Oui, c'était beaucoup plus difficile que dans les ligues majeures actuelles. Mm-hmm. Et alors, les gens disent que Josh Gibson, si on incluait les matchs de barnstorming, les hors-concours, il a frappé 800 mm-hmm. coups de circuit.
Ouais.
C'est fort possible. Mais ça compte pas.
Non, non.
Puis dans les statistiques qu'on utilise pour intégrer avec les statistiques de Ligue majeure, ces matchs-là, les hors concours, ne sont pas inclus. Et c'est un argument que les gens qui n'aiment pas l'idée d'avoir les Ligues noires mm-hmm. intégrées disent « Oh non, ça, si c'est les statistiques sont tous des matchs contre les ligues industrielles ou quelque chose, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est pas, ça rentre pas dans les statistiques.
Bon, ouais, exactement.
Mais Josh était comme l'équivalent de Babe Ruth pour les ligues des Noirs. Il était mm-hmm. tellement plus haut en reconnaissance. Et oui, il avait des problèmes vers la fin de sa vie, mais c'était aussi, je pense que officiellement, il est mort d'une hémorragie ou quelque chose. Et Branch Rickey a dit que peut-être ce serait lui qui aurait été choisi s'il était en santé.
Roy Campanella a mentionné qu'il a quand même été un excellent receveur avec les Dodgers, qui dit qu'il n'était pas assez bon pour porter le bâton de Josh Gibson.
Oui. Et Campanella lui-même est dans le temple de renommée. Et en mentionnant ça, c'est cette semaine qu'on a la rencontre de comité de la Ligue des Noirs à Cooperstown, au temple de la renommée du baseball. Ça commence mercredi prochain.
Satchel Paige est l'autre nom qui me vient en tête. C'est deux noms, je pense, que la plupart des amateurs de baseball qui suivent depuis longtemps ont déjà entendu. Paige s'est rendu dans le baseball majeur.
Oui.
Compte tenu de ce qu'il a fait à un âge assez avancé,
on
peut se demander s'il avait joué dans le baseball majeur alors qu'il était dans la fleur de l'âge, qu'il aurait accompli ses statistiques à ce moment-là, lui aussi.
Sa moyenne de points par manche, c'est...
Moyenne de points mérités.
Oui, des points mérités. Et peut-être le deuxième dans l'histoire du baseball.
Mm-hmm.
Et maintenant que c'est intégré, quand il a joué dans les ligues majeures, il avait 40 quelque chose. Puis,
on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr parce qu'il a toujours menti. Quand il s'est présenté dans les ligues noires, c'était pas exigé qu'il y avait son passeport. Alors, il donnait toujours un âge diminué. Alors, quand il avait 24, il annonçait « Oui, j'ai 20 ans », puis « Wow, c'est une étoile à 20 ans ». Il avait peut-être 24 ans, puis ça, c'était quelque chose qu'on voit partout dans le baseball dans ces années-là, durant les années 20-30. Et lui était dominant, puis il a un fiche nettement supérieur quand il jouait des matchs hors concours contre les joueurs de Ligue majeure, et c'est là-dedans aussi.
Oui, ben il y a des tournées qu'il effectuait avec Bob Feller. Bob Feller, qui était un homme d'affaires, c'était pas juste un bon lanceur.
Oui.
Bob Feller, qui était un des premiers joueurs à monnayer, si on veut, son talent.
Oui.
Et il l'a fait en compagnie de Satchel Paige. Donc, les deux ont fait la paire. Et Feller le savait, là, que Satchel Paige était capable de lancer à un haut niveau. Là.
Oh, mais c'était pas juste au même niveau que Bob Feller. C'était probablement le meilleur lanceur de son
époque
au baseball. Et il était dans la même discussion que Bob Gibson ou Cy Young ou Christy Mathewson. C'était dans les le top 5 de tout le temps. Puis Satchel, même à l'âge de 42 ou 45, ou qu'est-ce que ce soit, il était toujours un joueur de haut niveau, même à un âge très avancé.
Oui, avec les Browns de Cleveland, d'ailleurs, il y a eu, oui, avec une très mauvaise équipe, il y a eu une très, très bonne saison. Il a gagné la Série mondiale avec ce qui était les Indians de Cleveland à l'époque.
En 48, oui.
Oui. Quand on voit tout ça, je vois Jack Anderson impliqué dans le comité. J'imagine que le comité, tous ceux qui ont travaillé, vous devez ressentir une certaine fierté parce que c'est votre travail, dans le fond, qui est reconnu. Vous avez travaillé fort, vous avez fouillé, vous avez fouiné, vous avez vu des gens, vous leur avez parlé. Mm-hmm. Vous avez établi des contacts, même ces joueurs-là, quand ils jouaient, probablement qu'ils ne pensaient jamais que des Blancs pourraient s'intéresser à eux. Vous avez...
C'est drôle que vous me disiez ça parce que je me souviens quand on avait un colloque annuel, puis je pense que celui-là c'était à Chicago. Ça fait peut-être 10 ans ou 12 ans. Le joueur, puis j'ai pris un baseball pour le faire signer. Mm-hmm. Et le joueur, qui était un joueur pour le Chicago American Giants, il était âgé à ce temps-là de 85-88 ans, et il me dit, personne à personne, il me dit exactement ça. Il a dit, il pensait jamais qu'un Blanc allait me demander une signature et voulait serrer ma main. Parce que dans le temps, c'était impensable. Parce qu'il jouait au courant des années 40. Mm-hmm. Et que un homme pourrait demander de lui serrer la main, de remercier pour ses décennies de matchs joués était simplement impensable. Et puis il y avait un problème à me regarder dans les yeux.
Ah oui.
Et il avait la tête basse, là puis mm-hmm. Quand je lui ai dit, non, ça me fait plaisir de vous rencontrer, de discuter vos expériences dans les Ligues des Noirs, et je vous remercie d'avoir parlé, de nous parler de vos expériences. Puis j'ai eu l'opportunité de parler à beaucoup des anciens joueurs au fil des années, et il était très respectueux, très humble, c'est quoi?
Oui, et reconnaissant aussi.
Oui, oui. Et c'était peut-être la même... Il était un peu peut-être choqué ou quelque chose que les Blancs s'intéressent tellement. Parce que dans le temps, c'était deux...
Ils étaient surpris, là.
Oui, oui, absolument. Alors,
Mais fiers aussi, j'imagine.
Oui, oui. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli et vraiment, ils doivent être fiers parce qu'il y avait le problème de racisme, le problème de... Ils n'étaient pas bien payés. Ils ont travaillé extrêmement fort pour accomplir ce qu'ils ont accompli. Alors, ils doivent être fiers. Mm-hmm. Mais c'est peut-être... C'est toujours trop tard pour la plupart des joueurs, mais la reconnaissance qu'on voit maintenant, avec la reconnaissance des Ligues des Noirs comme des Ligues majeures, et maintenant avec l'intégration des statistiques, ça ferme la porte. Ce n'est pas vraiment à discuter. C'est accepté par la Ligue majeure que les statistiques sont bonnes.
Ouais.
Alors,
mais je reviens à ce que je vous disais tantôt. Je demandais, vous personnellement, Jack Anderson, ça vous rend fier, là, ça rend fier de votre travail, de tout votre comité, là?
Oui, c'est pas moi. Il y a des gens qui travaillent depuis des années sur les statistiques, puis moi, j'ai écrit plusieurs articles, mais il y en a d'autres qui ont écrit des livres. Et qui ont fait beaucoup plus que moi. Et mais c'est un oui, on est fiers que on a pu convaincre le baseball majeur à faire la reconnaissance aux Ligues des Noirs. Pas pour nous, mais pour eux, pour les joueurs.
Mm-hmm.
Parce que, d'après moi, on le doit.
Ouais, on leur doit là, au moins ce respect, là, puis de reconnaître que le niveau dans lequel ils ont évolué était aussi élevé que celui qu'on a eu dans le baseball majeur à la même époque.
Exactement. Oui.
Merci, Jack Anderson.
Merci.